Bouchard en parle, présenté par Matelas Dauphin, qui vous offre tous les formats de matelas collection hôtel inspirés de l'hôtellerie de luxe à moitié prix taxes payées jusqu'à dimanche dans tous les Matelas Dauphin.
7h35. Oh, j'adore faire ça. Même si c'est pas à nous à faire ça, c'est pas à je m'en sac. J'aime ça. Alors, on va voir encore une fois ce matin un chèque. Hein? Oui, le ministère des Transports va nous envoyer un chèque parce qu'on va faire leur job.
Yeah.
On va faire ensemble avec vous une réunion. Au lendemain de la plus grosse tempête de l'année. Tu sais, ça a été une bonne, puis il annonce encore 15 cm aujourd'hui. Alors, le déneigement, on en a assez parlé, mais c'est vraiment pas facile. Nous allons nous poser la question suivante. Et vous allez voir, on vous amène déjà des réponses. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire autre chose? Tu sais, je sais que les grattes sont plus performantes, sont plus grosses, sont plus... Mais, grosso modo, là, on ramasse la neige pas mal comme dans, là, 10, 20, 30. 40, c'est-à-dire qu'on passe des grattes, on tasse la neige sur le côté, après ça, on renvoie des camions qui mettent la neige dans leur conteneur, puis ils apportent ça dans un dépôt à neige. Vous êtes d'accord? J'ai résumé, là. On la tasse, on la transporte, on l'entrepose. En quelque sorte, on a des entrepôts à neige.
Oui.
Puis là, bon, on attend, puis que ça fonde. Y'a-tu moyen de faire autre chose? Non, c'est quoi, Sylvain, tu t'en vas où avec ça? Ouais, mais on a fait le tour. On a appelé. On a trouvé des pays, des villes, je vous jure, ils font autre chose. Alors, on va vous présenter ça ce matin. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans le déneigement ou tout ça. Est-ce réaliste? Est-ce qu'on pourrait avoir ça? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être pas au même niveau. Mais il y a des auditeurs qui ont commencé à nous écrire pour dire, « Hey, pourquoi vous faites votre déneigement comme ça? J'arrive du Japon. Avez-vous une idée comment ça se passe là-bas? » Non.
Non, c'est vrai.
Jean-Simon, bon matin. Alors, tu t'es intéressé à quoi?
Oui, je me suis intéressé à un rapport de 2010 qui s'appelle « La base de données sur la neige et le verglas ». Il y avait eu une espèce de congrès qui s'était tenu au Québec, présentant à peu près tout ce qui existe en termes de pays qui doit faire face à des chutes de neige importantes pendant l'hiver. Ça comprend évidemment le Canada, les États-Unis, les pays scandinaves, des pays d'Europe et le Japon auquel on ne pense pas. Parce que le Japon, quand tu regardes un peu les latitudes, est situé plus au sud que la majorité des pays où est-ce qu'il y a de la neige. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des endroits au Japon où il tombe plus de neige que partout ailleurs dans le monde, particulièrement dans des zones peuplées. La ville de Sapporo, au Japon, sur l'île d'Hokkaido, qui est un peu plus au nord.
Le nom nous dit de quoi?
Oui, c'est une ville relativement connue, où il y a beaucoup d'habitants.
Il y a déjà eu des Jeux olympiques.
Absolument.
En 76?
72, je crois, mais il faut la vérifier.
Oui, 76,
et donc, c'est une ville qui est très peuplée, une région qui est très peuplée. Et où est-ce qu'il tombe? Tenez-vous bien, 5 mètres de neige par année.
C'est plus qu'ici. Alors, vous voyez que côté comparaison, parce que c'est facile d'aller chercher une ville où ils tombent presque pas de neige, puis ils font autre chose. Là. À Sapporo, ils en tombent plus qu'à Québec, c'est ça?
Oui, exactement.
Bon.
Côté température, je vous le dis tout de suite, c'est un peu plus chaud qu'à Québec.
OK.
Les températures moyennes avoisinent davantage pour l'hiver, moins 4 environ pour le mois de janvier. C'est plus froid un peu à Québec. Mais quand on regarde, par exemple, le sud du Québec, si on regarde Montréal, pour le mois de février, la température maximale moyenne est à moins 3. À Sapporo, 0. La température minimale moyenne est à moins 11 à Montréal, est à moins 7 à Sapporo.
Bon, il n'y a donc pas de si grosses différences que ça. Tout le sud du Québec, là où il y a le plus de monde, là, c'est là, ça ressemble à Sapporo.
Oui.
Or, là-bas, ils ne ramassent pas la neige comme nous, mais pas pantoute. Ils font quoi, Jean-Simon?
Bon, évidemment qu'ils ont des déneigeuses et de l'épandage d'abrasif, ça va de soi. Par contre, là, je suis tombé, puis c'est les seuls, parce que j'ai épluché un peu le rapport, puis à peu près partout dans le monde, on utilise des déneigeuses puis de l'épandage d'abrasif. Là, je tombe sur chauffage des routes. OK? Pas bien ça. Les systèmes de chauffage de route font fondre la neige ou empêchent l'apparition de verglas, non pas en arrosant la route avec de l'eau, mais en chauffant le revêtement au moyen de caloducs ou de fils électriques. Donc, sous les routes, on vient passer des fils électriques, du courant électrique qui vient réchauffer la chaussée et qui fait en sorte, puis il y a des photos où tu vois carrément les trottoirs complètement déneigés. Fait que, oubliez ça, les crampons, là, les gens, ils peuvent marcher sur des trottoirs complètement déneigés grâce à des fils électriques qui passent sous la chaussée.
Là, attends un peu, je sais, vous allez dire tout de suite, mais ça coûte combien? Il faut toujours mettre ça en parallèle avec ça coûte combien déneiger.
C'est ça.
Avez-vous une idée? Ça coûte quoi ramasser la neige, les grattes, l'entreposer? Évidemment, là, le Québec est grand, là. Commencera pas à avoir des routes chauffantes partout. Mais ce qu'il pourrait y avoir, des ponts, certaines sections d'autoroute, trottoirs au centre-ville, je sais pas, moi, des endroits où tu dis, hey, ça vaut à peine, là. On bâtit ça, là. Tant qu'à bâtir, on met une route chauffante ou une portion de route chauffante. Ils le font et ça marche.
Et ça fonctionne.
La neige fond.
Et ça fonctionne. Très intéressant. Des gicleurs de fonte également. C'est des eaux souterraines qu'on amène par pompage dans des canalisations, puis à des buses d'arrosage, donc des gels, un peu comme, comme ce que vous avez sur votre gazon, mais à plus grande échelle.
Ouais.
Et les canalisations sont enfouies en dessous de la route, encore une fois. Et là, il y a des jets d'eau qui sortent et qui viennent faire fondre la neige par-dessus. Ça fonctionne très bien également. OK?
Alors ça, j'imagine que ça peut dépendre des températures. Peut-être que ça marche pas tout le temps, mais des fois, ça marche.
Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Des exutoires à neige. Vous savez comment on est pogné là, présentement avec les bancs de neige de 6 pieds de haut, puis on n'est plus capable de pitcher à neige. Ouais. Des trappes dans le sol pour que les citoyens participent au déneigement en faisant passer la neige dans les souterrains. La ville de Sapporo, écoutez ça, a encouragé la construction d'exutoires pour éliminer la neige avec la participation des habitants. Les exutoires sont construits au bord de la route. Déversés dans des canalisations d'eau, la neige de la rue est emportée par l'écoulement en pente naturelle. Il y a un dallou souterrain qui est utilisé. La source est généralement de l'eau fluviale. Et par rapport aux eaux fluviales, ça permet une capacité de débit moindre. La température plus élevée des eaux d'égout fait fondre la neige et réduit le volume.
Tu es en train de me dire qu'il y a des, admettons, les citoyens de Saint-Sauveur qui reçoivent des amendes ces temps-ci parce qu'ils ont garoché un peu de neige dans la rue, mais c'est parce que là, ils ne savent plus où à mettre. Ben, ou on est une gang aussi, là. Ça, ça, dépendamment de votre situation, où on ne sait carrément plus où la mettre. Il y a une trappe à quelque part.
Voilà, des petites trappes sur le bord du chemin, comme ça, puis tu pousses la neige dans la trappe, puis ça tombe dans l'eau d'égout. Et ça fond.
Mais parce c'est que l'eau bien simple.
Puis ça s'en va à l'usine de filtration par après, j'imagine.
À plus grande échelle, des réservoirs pour faire fondre la neige. Au lieu de faire des grands dépôts à neige qui commencent à ressembler à l'Himalaya,
ouais.
Ils ont carrément... En passant, ils disaient hier à la TV qu'ils commencent à être remplis. Ça peut, là, je ne veux pas faire peur au monde, là. C'est pas plein à la capacité maximum, mais ils commencent à regarder ça. Là,
à Lévis, ils ont des problèmes. Là. À Lévis, c'est la capacité
à Lévis,
maximum.
Ça a commencé. Ouais,
c'est ici à Québec. Avant le ramassage qu'il y a eu dans les dernières 24 heures, c'était 50 % que Jérémy Arnault avait dit.
Bon, fait que là, on est en haut de la moitié.
Oui, puis on a 15 cm qui arrivent aujourd'hui. Là.
Ouais.
Alors, les camions bennes ramassent la neige.
Oui.
Et il y a des petits réservoirs d'eau chaude qui sont un peu partout dans la ville. Ils vont jeter la neige dans les réservoirs d'eau chaude. Qu'est-ce qui arrive? Ben, la neige fond dans l'eau. Ça s'écoule dans les mêmes canalisations que les trappes à neige, les exutoires à neige. Et tout ça finit par se retrouver dans le réseau.
Mais c'est bien
génial.
Pourquoi
quand on écoute ça, hein, on a tendance à se demander, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font quand ils se lèvent le matin et ils rentrent au bureau? Ça ne leur tente pas une petite réunion? Regarde juste, on n'a pas mis 10 personnes pendant 6 mois avec 3 voyages. Tu sais, on a comité, on a juste demandé à Jean-Simon, va donc voir ce qui se passe ailleurs. C'est un réflexe qu'on devrait tout le temps avoir. Ils font quoi avec la neige ailleurs? Je suis convaincu qu'on ne peut pas tout faire ça. Pas partout, pas dans... Mais il doit avoir une coupelle d'idées là-dedans dont on peut se servir.
Puis c'est quoi, Sylvain? Je pense qu'il n'y a personne qui chialerait ce matin si tu avais 3-4 fonctionnaires qui faisaient le voyage au Japon pendant une semaine pour voir comment ça fonctionne là-bas.
Sapporo,
possiblement.
N'importe quand.
N'importe quand,
je dirais oui tout de suite. Oui, ouais, ils partent. Pas besoin d'être 10.
Non, mais 3-4.
Ils partent 3-4. Ils s'en vont à Sapporo, puis ils vont voir comment ils ramassent la neige.
Ouais.
Toutes les idées que tu as données, là, les trappes, les réservoirs pour la faire fondre, les routes chauffantes. Puis là, tu reviens, puis tu dis, écoute, sur 8 idées, il y en a peut-être 3 qui sont applicables ici. Here we go.
Allez-y.
Écoute, je vous répète que le déneigement, à part les machines là, qui sont plus performantes, c'est la même affaire depuis, je pense, Champlain ou Cartier, ou non, peut-être pas. Mais il y avait des chevaux, mais c'était le même principe.
Jean-Talon.
C'est... Jean-Simon, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Oui, il y a d'autres choses aussi. On a quelques lacs au Québec. On en a quelques-uns, hein? Parce qu'il y a 1 million de lacs au
des
Québec.
Il y en a partout,
des lacs. Là, évidemment, ça dépend toujours des conditions, tout ça. Mais il existe une route très sinueuse au Japon, une route qui mène de Nagoya sur, ça s'appelle la 40, mais c'est pas notre 40, évidemment, là. Et ils ont des problèmes de verglas là-bas. Alors, ils utilisent la chaleur résiduelle dans le lac, en profondeur, pour réussir à chauffer à l'aide de pompes à chaleur et venir avec des espèces de tubes, encore une fois, chauffer la route pour éviter le verglas. Ça existe, ça, également. Et de la géothermie, également, qui est utilisée. On a
donc,
même...
gros, mais tu sais, j'essaie de résumer, là. Grosso modo, là, au lieu de la ramasser, il y a fond.
Oui, grosso modo.
Ouais. C'est un peu ça, que ce soit sur les routes, dans les réservoirs, avec les égouts, un lac... Pourquoi la ramasser? Ça fond de la neige. On va chauffer de différentes façons. Hey, 25-226, hein, on est en pleine... c'est un genre de commission d'enquête maison. Là. Mais si vous voulez participer, on n'est pas des experts, des ingénieurs. Jean-Simon se fie tout à des documents officiels. Mais 25-226, comment on pourrait améliorer le déneigement à Québec puis au Québec?
Et il y a plus aussi système de fonte de neige à énergie éolienne, parce que tu sais qu'on a des éoliennes qui ne servent pas à grand-chose. Ils se sont rendus compte que comme il y a des forts vents dangereux, ben ils ont dit on va utiliser ces vents-là. L'énergie éolienne va servir à faire fondre la neige également. Donc, on pourrait peut-être trouver une utilité à nos éoliennes.
Encore là, c'est le même principe. Eux autres, ils se sont dit on va faire fondre.
On va faire fondre.
Parce que de la neige, ça fond. Êtes-vous au courant?
Hein? Arrête donc,
non, ah, ben, oui? Je m'adresse au ministère des Transports. Si cette éventualité-là, il ne l'avait jamais regardée. Hey, je veux pas insulter tout le monde. Là. Je me fais dire des fois, Sylvain, on peut pas. On arrive avec des idées, puis c'est bloqué. La machine, c'est comme, on peut pas. Je suis sûr que sur le terrain, il doit en avoir. Là. C'est plein de bons fonctionnaires au transport qui auraient peut-être le goût d'améliorer les choses. J'ai des réactions au téléphone, on en a par texto aussi. Tu voulais ajouter
ben, j'ai la réponse du MTQ après, si tu veux, parce que je les ai évidemment...
Je peux te la donner. Présentement, nous avons étudié, et c'est pas possible compte tenu des conditions au Québec. C'était pas des solutions. Avez-vous un rapport là-dessus? Un rapport me démontrant l'étude vraiment qui a été faite? Non, mais ma réponse, c'est que...
Mais il y a quand même quelques affaires qui ont essayé. Tu te souviens, on avait déjà parlé d'un pont en Beauce avec des espèces de gicleurs pour faire déglacer. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On parle aussi d'un système de déglaçage.
Ça fonctionne bien, pourquoi ils l'ont pas fait ailleurs?
Une bonne question. Mais c'est un projet pilote. Je sais pas quand est-ce qu'il passe à la généralisation. Puis également, on dit qu'il y a de la signalisation dynamique également qui a été utilisée. Mais ce qu'on dit qui est principalement problématique en lien avec le déglaçage et le déneigement par rapport à Sapporo, c'est qu'on n'a pas les mêmes défis quant à l'aproposage de la neige usée, c'est ce qu'on dit. Les systèmes présentés, chauffage de route, gicleurs de fonte, exutoires à neige, réservoirs pour faire fondre la neige, ne sont donc pas utilisés par le ministère.
On n'a pas les mêmes défis,
c'est ce qu'on dit,
par rapport à la neige usée. Mais on a les mêmes défis. Il faut que ça soit filtré, tu peux pas mettre ça dans le fleuve comme ça, bing bang, on sait bien. Mais si j'ai bien compris, les Japonais, ils sont pas mal verts, les Japonais, là. À mon avis, à Sapporo, ils ont les mêmes préoccupations écologiques que nous autres.
Ben, eux, ce qu'ils disent, grosso modo, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'étant donné qu'on a plus de territoire, on a plus de place pour mettre la neige usée qu'à Sapporo. Bon, c'est pas mal ça qu'ils veulent dire. L'autre chose également qu'on mentionne, c'est que, notons que cette région du monde vit une activité sismique et volcanique intense, ce qui augmente la quantité de chaleur disponible, alors qu'au Québec, ça coûterait une fortune à faire.
Il a parlé d'éolien et de courant. Là.
Mais non,
ça veut dire qu'à Sapporo, là, le courant qu'ils mettent dans les routes, c'est le volcan qui amène ça? Il chauffe au volcan? Mais on n'a pas de volcan. Alors, on ne peut pas faire ça, on n'a pas de volcan. Je vais aller au téléphone d'abord, puis ensuite les textos. Pierre, bon matin.
Bon matin.
Yes, je vous écoute.
Pierre, tes affaires de trappe là, que tu disais pour ton pays, il y avait ça à Montréal, là, il y a 20 ans à peu près, 15-20 ans. Ils ont enlevé ça parce que ça contaminait l'eau du fleuve.
Parce que ça contaminait l'eau du sol du fleuve?
L'eau du fleuve.
Ouais, mais si t'envoies ça, tu passes ça par l'usine de filtration, mettons que tu le garoches pas direct, là.
Ouais, là
peut-être qu'à l'époque...
Ouais, il n'y avait pas ça, là.
Ouais, je comprends. Hey, merci d'avoir...
Des installations ont été faites dans le bout de la Courte-Surcot, là, en bas, là, pas bien ben loin de la rue Notre-Dame, puis les drogues allaient tomber là-dedans, puis ça passait, ça s'en allait direct dans le fleuve. Là.
T'as raison. Merci d'avoir appelé. Oui, c'est sûr qu'à l'époque, je ne savais pas que ça avait été essayé, les trappes à Montréal. Mais à l'époque, à Québec aussi, là, ils dompaient la neige dans le fleuve. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Il faut que ça soit filtré. Mais l'histoire, au Japon, là, ils ne dompent pas la neige direct dans un lac.
Non, mais ça.
Ça
se retrouve dans les eaux d'égout et ensuite, c'est filtré. Là.
Ben oui, c'est ça.
De toute façon, au Québec, on ne pitche pas des milliards de litres d'eau d'égout de temps en temps dans le fleuve.
Oui, ouais, mais ça, c'est comme ça. C'est les villes. Pas pareil.
Ça, c'est correct.
C'est pas comme si toi, t'arroses ton gazon. C'est pas la même affaire, pantoute, là. Mêle-nous pas.
Il y a plein de monde qui nous parle d'un dépôt à neige qui était à Cap-Rouge à l'époque, avant les fusions municipales. Je sais pas si le dépôt est encore là. C'est ce que les auditeurs se demandent.
Il
faisait fondre la neige à ce moment-là. Il envoyait ça dans une source souterraine et ça se faisait fondre à ce moment-là. C'était situé sur la rue Chaudière, boulevard Chaudière, proche du Tracel. Je sais pas si le dépôt est encore là ou s'il fonctionne de la même façon. Puis les auditeurs le savent pas non plus. Mais ils savent qu'à l'époque, avant les fusions, c'était comme ça que ça fonctionnait.
Et là, quand on dit on a de l'espace, nous autres, la neige, c'est un peu ça, là. Nous autres, à Sapporo, ils n'ont pas beaucoup d'espace, ils font fond, mais nous autres, on l'entrepose, puis c'est pas grave. Avez-vous une idée de ces terrains-là, ce qu'on pourrait faire avec?
Ben oui, c'est gros, ça.
Je m'excuse, on manque de place à Québec, là, pour les familles, pour des terrains, tout ça. Prenez chaque dépôt à neige, là, puis, exemple, celui sur Godin, là. T'es dans le parc industriel, il est plein, là. Les parcs industriels sont quasiment tous pleins à Québec. C'est de l'espace perdu. Hey, on entrepose de la neige. Pensez-y, là. Je sais que t'as peut-être pas le choix des fois, mais c'est un peu débile. Tu la ramasses, gelée, puis tu l'amènes à un autre endroit, tu dépenses du gaz, tu pollues, tu as une place. Si on la faisait fondre, il me semble qu'il y a une logique un peu juste, d'au moins regarder ça.
Il y a Jacques qui répond à notre question. C'était à l'époque des années 90, Cap-Rouge avait effectivement innové avec une fondeuse, mais elle n'est plus utilisée aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas.
Mais peut-être parce que l'eau fondue. Ben, en fait, la neige fondue s'en allait direct dans le fleuve. Peut-être.
Non, mais là, Sapporo, il doit en avoir de l'eau potable et des systèmes de filtration. Ça doit fonctionner. Les Japonais ont développé un système immunitaire incroyable en buvant de l'eau contaminée. Puis...
Non, c'est ça. Là. Non, parce que quand on veut pas, mais sais-tu quoi? C'est le manque de volonté. La machine, théoriquement, en autant qu'elle se nourrit à des postes, à des salaires, à des... Le but de la machine, demandez à n'importe qui, fondamentalement, en haut, je parle pas des fonctionnaires de la base qui sont souvent motivés, qui ont des idées, mais en haut, c'est on a-tu les postes? Est-ce qu'on grossit? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus d'argent, des sources de revenus? C'est devenu tellement gros qu'on a perdu l'objectif qui est être meilleur, rendre service aux citoyens. C'est moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on regarde ça. Ce qu'on pourrait, mais là, la réponse au ministère des Transports, ça n'a pas été, on étudie, on est constamment à la recherche de solutions innovatrices. C'est comme dans n'importe quel business privé, gars, je vais le dire. C'est, ah non, on n'a pas de volcan.
Mais il y a de la géothermie au Québec quand même. Là. Il y a moyen d'aller chercher de la chaleur dans le sol même
on
en hiver.
On ne fera pas ça partout. Peut-être que dans certaines villes, ça ne marche pas. Dans d'autres, peut-être que c'est plus à Montréal avec ou à Québec, dans les grosses villes, que ça pourrait être intéressant. Mais on répète constamment la même chose, le déneigement. Pensez-y, ça tombe, on ramasse, ça retombe. Mais pourquoi qu'il n'y aurait pas moyen, on est en 2019, là, de faire mieux que ça et de innover?
Quelqu'un d'autre nous écrit, il y a déjà eu une fondeuse à neige à Québec, en haut de la côte de la Pente Douce, où est le Béni aujourd'hui. Elle a été fermée presque tout juste après son ouverture.
Ils l'ont ouvert, ils l'ont fermé.
Ça a l'air, c'est ce que cette personne a dit.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est 709330, étoile 93.3, ou envoyez-nous des petits textos. On va fouiller un peu pour le passer.
Peut-être parce que justement, la neige fondue se retrouvait dans les cours d'eau au lieu de se retrouver à l'usine de filtration.
Non, on dit que c'est parce qu'elle ne fournissait pas. Les camions attendaient dans la côte à la dizaine. Ah. C'était pas assez gros, finalement, cette fondeuse, la fondeuse. Fait qu'ils ont
ils l'ont mis au mauvais endroit.
OK. Puis elle n'était pas assez grosse.
Donc, les camions bloquaient le trafic à chaque fois qu'ils allaient porter la neige.
Ils attendaient probablement, une demi-heure, une heure, le temps de faire fondre leur neige puis de retourner à l'ouvrage après.
Alors, si tu t'enlignes vers des fondeuses, il faut que ça soit d'un endroit accessible puis il faut que ça roule.
Ouais, c'est ça.
Il y a assez de place pour que la neige...
C'est une côte à pic, c'est pas...
La côte de la Pente Douce.
C'est qui le brillant individu
ici?
T'as peut-être pas en meilleure place, là.
J'ai une idée, je vais mettre ça
dans la vie.
On va mettre ça en haut. Les camions.
Ça tombe dans l'île.
C'est une tempête, en plus. Les camions sont poignés, ils avancent plus.
J'ai une idée.
Mais ils l'ont fait, celle-là. Ouais.
C'est bon, ça, c'est génial.
Toi, c'est l'employé du mois, toi.
Bravo. J'ai fouillé un petit peu ce dossier-là avec Jean-Simon, puis j'ai contacté la délégation du Québec à Tokyo, qui ont des contacts un peu partout au pays, au Japon. Puis on m'a dit qu'il existe une association internationale, ça s'appelle l'Association mondiale de la route, dont le Canada et le Japon font partie.
OK.
Alors, comment ça fait qu'il n'y a pas plus d'échanges de belles technologies comme ça entre les pays?
Ben, ils l'ont, là.
Il y a l'association, tu sais, mais...
C'est un rapport qui a été fait au Québec suite à une rencontre internationale qui a eu lieu en 2010. Ils l'ont, là. C'est pas moi qui l'a trouvé.
OK, donc c'est la même mentalité que
pour... C'est écrit en français, là. C'est un rapport qui a été rédigé au Québec suite à une rencontre internationale sur la neige et le verglas à travers le monde.
OK, donc c'est la même mentalité que pour la deuxième récréation dans la journée, là.
C'est compliqué.
Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche pas?
Bon. Moi, à chaque fois, oui... Quand on appelle au gouvernement, on a souvent l'impression que c'est là ils cherchent toutes les façons de bloquer ça, puis pas que ça marche. Parce qu'anyway, ça lui donne rien. Eux autres, c'est grossir. La machine, tout ce qu'elle veut, c'est grossir.
Bon, là, écoutez bien ça. Martin nous écrit qu'il y avait aussi une fondeuse à neige sur Marie de l'Incarnation. Ça existait avant, mais c'était pas bon pour la rivière Saint-Charles. Fait que là, à date, on a celle de Cap-Rouge qui a été fermée, on sait pas pourquoi. Celle de la Pente Douce parce qu'elle était mal située puis elle fournissait pas. Puis celle sur Marie de l'Incarnation parce qu'elle polluait la rivière Saint-Charles.
Si je comprends, ça veut dire que tous les réservoirs à neige pour les faire fondre, garochait la neige une fois fondue dans les rivières ou dans les sources d'eau. Là.
Bon, mais à place de trouver une solution pour ça, ils ont décidé de tout fermer les fondeuses. À place de.
Non, mais parce que là-bas, ils sont connectés au réseau de.
Ben oui, au réseau des goûts.
Des goûts, donc ça veut dire que c'est filtré. Là.
C'est juste de construire des conduits qui mènent ça aux égouts, puis après ça aux usines de filtration.
Tu vois, ça c'est génial. Il y a même, sur le graphique, c'est écrit il y a un système d'élimination des dépôts. Donc, du sel puis du calcaire.
C'est filtré. En quelque part, c'est filtré.
Mais ici, c'était plus simple de juste fermer les fondeuses puis de
cesser les utiliser. Dans le budget de la ville, essayer de me sortir ça, là, je ne sais pas, avez-vous une idée? Combien ça coûte à une ville par année? Là? C'est récurrent, tout le temps.
C'est 43 millions, je pense, à Québec.
T'es-tu sérieux?
Plus un fonds de réserve quand il y a des hivers où il tombe des...
Donc, cette année, c'est peut-être 50. Parce que c'est une année exceptionnelle. Ça même, là. 50... millions de dollars.
Plus que ça, 52, 53, et c'est 8,5 millions de dépassements cette année, compte tenu de la neige qui a commencé en novembre.
Imagines-tu, t'as investi, à un moment donné, un 200 millions, quand même que ça sera 200, 250, avec tout ce qu'on a dit comme solution pour faire fondre la neige, pour faire autrement. Puis que là, une fois que ça fonctionne, ça te coûte combien? Je sais pas, moi, 3, 4, 5 millions par année à entretenir, tout ça, mais tu pourrais sauver énormément d'argent.
Bon, plusieurs personnes, dont Claudette et Isabelle, se demandent, est-ce qu'on a les usines requises pour filtrer toute cette eau-là? Est-ce que ça ne va pas surutiliser les usines qui fonctionnent déjà présentement?
Non, mais t'en bâtiras une nouvelle.
Ouais.
On en bâtira une nouvelle. Elle va être là pour 100 ans, là, ou je ne sais pas, moi. Mais toujours refaire à chaque année. On a 50 millions par année de dépenses à Québec.
Quand même qu'une usine coûterait 50 millions... À construire.
Go. Elle est faite, puis tu l'as pour un bon bout.
Ça te permet d'en sauver 30 par année après.
Mais qui travaille là-dessus? Y a-tu vraiment, tu sais, quelqu'un là, dans tout, là, que ce soit la ville, au gouvernement, qui est là-dessus à matin? Là. Tu sais, genre, il y a des réunions, puis de temps en temps, ils checkent ça. J'ai pas eu vent là, d'études, j'ai rien dans les mains. On nous a donné une réponse, là, genre, il n'y a pas de volcan, puis bon, des affaires de même. Là. Mais il y a personne qui me produit une étude, là. On compare le système de Sapporo avec Québec pour voir lequel qui est le mieux puis qu'est-ce qu'on peut faire. On compare le métro avec le tramway. Non, ça, c'est moi. Mon Dieu, je viens d'avoir une petite rechute. Excusez-moi.
Ben oui, ça allait bien.
Non, non, mais j'ai des rechutes des fois, moi. Des fois, à un moment donné, bon, un peu comme un alcoolique. 7h56 au FM 93.
Samedi et dimanche matin, dès 7h, c'est que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon et Pascal CV.
Je vais te dire c'est quoi le cadeau que j'ai donné qui a pas marché.
Okay.
Et j'ai surpris ma blonde à regarder une vidéo d'une affaire qui s'appelle sable cinétique.
Je peux pas croire qu'avec ce nom-là, tu t'es dit
C'est comme un mélange entre du sable et de la glu.
Ça colle ensemble.
Que ma blonde a le texto 25
de plus. Arrête!
Je te jure.
Que Québec se lève.
Samedi et dimanche matin dès 7h. FM 93. Ça me parle.
Que Québec se lève. Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Tu travailles sur la construction, tu mérites une botte ajustée à ton pied. C'est couvert par les assureurs. Visite piedquebec.com.
Chez Ashton, profitez de la promo Les Parfaits 3P. Un savoureux pain à la viande, une authentique poutine format bébé et un Pepsi 16 onces vous sont offerts pour un temps limité à seulement 9,50 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai.
Je vous parle de Jean Lelièvre, syndic. On a parlé de finances, ça ne fait pas longtemps. Si c'est la saison des REER, puis là, il y a des gens qui placent, puis les CELI, peut-être que votre questionnement à vous, c'est plus, je sais pas comment je vais réussir à passer à travers la fin du mois. Je ne ris pas de ça, mais c'est le cas de plein de monde. Les cartes de crédit se sont accumulées, vous n'avez pas résisté aux tentations, c'est tel que tel. Là, mettez-vous en mode solution. Le jugement, là, regarde, ça donne quoi, là? Vous êtes capable de le faire vous-même. Mais oui, vous avez fait des erreurs. Là, ce matin, vous allez faire un tout petit geste. Google Jean Lelièvre. Jean Lelièvre syndic. Ouais, mais ça va coûter combien? Ben là, juste aller nous voir, nous rencontrer. Attendez, là, ça coûte rien, venez au moins nous voir. On va vous proposer des stratégies. Ouais, c'est la faillite, ça, le syndic? Non. Non pour la majorité des cas, je vous le dis, là. Proposition de consommateur ou autre, on a des stratégies pour, excusez l'expression, mais resetter, là. OK? On repart à zéro. On renégocie avec vos créanciers. Ça vous coûte 2000 par mois, genre? On peut ramener ça jusqu'à 500 dans certains cas. C'est, je sais compter un peu, là, c'est 4 fois moins. Et pas pour tout le temps, là. Tu payes pas illimité, puis ça s'en finit plus. Là. On va vous mettre une date là, où c'est réglé, c'est terminé. Un nouveau départ avec Jean Lelièvre, syndic.
Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, venez vivre le bonheur d'en avoir pour votre argent. Découvrez le Sportage 2019, bien équipé à partir de 26 995 $ avec traction intégrale sans frais durant l'événement Domptez l'hiver. Et on est ouvert le samedi.
Combinez le plaisir avec... Le plaisir, grâce aux agences de voyage La Forfaiterie. Fuyez l'hiver qui s'étire. Réservez un voyage avec La Forfaiterie avant le 28 février et recevez un chèque cadeau de 50 ou 100 $ à La Forfaiterie. Donc, un voyage pour vous et un forfait resto, hôtel, spa ou activité de votre choix aussi pour vous. C'est ça, combinez le plaisir avec le plaisir. Rencontrez nos conseillers au Club Voyage La Forfaiterie à Laurier-Québec et à La Forfaiterie Café et Voyage des Galeries de la Capitale.
Quelques unités actuellement disponibles recherchent leurs locataires exceptionnels aux loges Saint-Nicolas. Nos condos locatifs haut de gamme offrent un environnement enchanteur, en pleine nature et à proximité de tout. Les aires de vie extérieures et intérieures sont spécialement conçues pour bouger, relaxer, échanger et profiter de la vie. Loge, c'est l'expérience de vie inégalée dont vous rêvez. Visitez loge.ca et découvrez tout ce que vous pouvez vous offrir. Loge Saint-Nicolas, à chacun son endroit magique.
Wow, il fait vraiment pas beau là-bas. On y va-tu quand même?
Ben, c'est leur fiançailles. Je pense qu'on n'a pas le choix d'être là.
Chez Ford, on sait que rien ne devrait vous empêcher d'assister aux événements incontournables. C'est pourquoi on a construit l'EcoSport, un VUS qui a la capacité et toutes les technologies auxquelles vous pouvez vous attendre d'un VUS Ford. Et dès maintenant, obtenez un système 4 roues motrices sans frais en plus de 1000 $ en rabais sur les EcoSport 2018-9 sélectionnés. Procurez-vous l'EcoSport construit pour atteindre de nouveaux sommets chez votre détaillant Ford ou visitez trouvezvotreford.ca.
Pour communiquer avec notre studio, étoile 93.3. FM 93. Ça me parle.
Ça me parle de ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville. 93. Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mayou, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul-Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle. Ça me parle.
FM 93. Ça me parle.
Sylvain Bouchard.
FM 93. Jusqu'à 9h30, vous écoutez
Bouchard en parle.
Bouchard en parle.
8h pile. Ben, c'est commencé, les amis. Les auditeurs nous appellent depuis tantôt, nous textent, et on se vire de bord. On vous l'a annoncé. Encore une 15 autres centimètres de neige qui va tomber. Mais là, quand on est arrivé à la station, il neigeait pas encore. Tout ça, c'est parti. Gars, c'est pas comme mercredi. Mais il va venter assez fort aussi. Alors, ça pourrait compliquer les choses dans certains coins. On va rester vigilants avec vous. D'abord, le trafic, Vez.
Ouais, ça va pas trop mal. Ça risque d'être peut-être plus compliqué pour l'heure de pointe de l'après-midi. Mais au moment où on se parle, là, oui, il y a du monde sur Charest, direction Est, à partir à peu près de Duplessis jusqu'à Saint-Sacrement. Sur Capitale, mais en direction Est, surtout à partir de Saint-Jacques jusqu'à Robert Bourassa, Pierre Bertrand. En direction Ouest, c'est dans le secteur d'Estimauville, Henri Bourassa, où il y a un peu de monde. Laurentienne de Jean Talon, jusqu'à Capitale, sur Henri IV en direction sud, tout de suite après Sainte-Geneviève jusqu'à Amel. Et sur la rive sud, les files d'attente sont pas vraiment très longues pour accéder aux échangeurs qui mènent au pont La Porte. Il y en a une petite du côté ouest, du côté est, c'est à peu près inexistante. Il y en a une bonne, par contre, sur la 73.
La circulation présentée par l'événement Traction intégrale intelligente de Packet Nissan à Lévis. Louez sur 60 mois le nouveau Qashqai à 55 $ par semaine et épargnez 500 $ sur la traction intégrale.
En passant, apparemment que le prix de l'essence monte assez fortement. Oui. Là. J'ai vu une 12 et... cents de plus chez Ultramar.
1,13. Il y en a qui s'essayent à 1,13, mais il y a encore des places qui résistent à 1,2, 1,3.
La défaite du Canadien.
C'est probablement ça. Ouais.
Probablement relié à ça. Ouais. Le fait que le Canadien a perdu contre Nashville.
Et piqué des... Subban.
Et, ouais, c'est piqué.
La crise en Haïti aussi, apparemment. Que...
Ouais. La faute des libéraux. Ça a l'air que c'est la faute des libéraux. Ils ont demandé à CAQ. Fait les libéraux. C'est toujours les libéraux. Ben oui.
On continue. Une trentaine de marchands ont répondu à l'appel pour vendre leurs produits au futur Grand Marché de Québec. La variété sera au rendez-vous alors que bière de microbrasserie côtoieront produits du terroir. La SAQ aura également un kiosque. Le Grand Marché doit ouvrir ses portes en juin prochain. Une Québécoise a été arrêtée à l'aéroport international de Fort Lauderdale. Nathalie Dorothée Tremblay aurait fait une blague de très mauvais goût. Elle aurait laissé entendre qu'une bombe se trouvait dans un bagage. La voyageuse a donc été arrêtée mardi soir.
Le Canadien a perdu 3-1 donc hier contre les Prédateurs à Nashville. Thomas Tatar était le seul marqueur du Canadien qui sera à Tampa Bay demain. Au hockey junior, les Remparts sont à Chicoutimi ce soir. Et la troisième journée du tournoi international de hockey Pee-wee débute à l'instant au Centre Vidéotron.
Et c'est de la neige à Québec. C'est déjà commencé, donc ça se poursuit jusqu'à ce soir, même jusqu'à demain matin. Une accumulation de 15 cm environ avec un maximum de moins 2 et de la poudrerie parfois forte. Alors, il va falloir être vigilant. Demain samedi, c'est de la faible neige intermittente en matinée. Ça devrait cesser en mi-journée. Ce sera nuageux par la suite avec moins 6. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à compter de dimanche jusqu'à jeudi prochain, inclusivement, soleil à tous les jours. Aucun nuage, aucune précipitation. À Québec, il fait moins 8.
La météo présenté par Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Venez vivre le bonheur d'en avoir pour votre argent. Découvrez le Sportage 2019, bien équipé à partir de 26 995 $ avec traction intégrale sans frais durant l'événement Dont est l'hiver. Et on est ouvert le samedi.
FM 93, ça me parle.
On va faire un petit détour. Peut-être que mon invité qui est en ligne va dire « Hey, mon Dieu, c'est pas le bon sujet, là. C'est pas pour ça que... qu'ils m'ont invité, mais c'est juste un petit détour pour revenir. On va parler de vaccins. Vous savez à quel point ça crée de la chicane des fois puis de la controverse, mais juste avant. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec des gens qui détestent Donald Trump. OK? Ils ont le droit, on peut être partisan ou on peut pas l'aimer. Et je faisais juste leur faire remarquer que leur stratégie est pas bonne. Parce qu'ils n'arrêtent pas de traiter les partisans de Trump d'imbéciles. Certains. Puis, tu sais, je le disais, gars, moi, j'en suis pas un fan de Trump, mais arrêtez, c'est pas bon ce qu'Hillary Clinton a fait en campagne quand elle a traité de, je me souviens plus le terme exact.
Deplorables.
Voilà, merci.
Déplorable.
C'est pas bon. Voyons donc, il y a du bon monde, là, que pour X raisons, ils ont voté Trump. Si tu veux les convaincre, ben, vas-y avec des arguments. Commence par comprendre leur situation, leur colère, leur frustration. Puis, tu sais, sois pas condescendant. Regarde-les pas de haut. Alors, je vais essayer de me servir de ça là, pour le prochain segment. Puis je vais justement demander de l'aide un peu à mon invité, parce que moi, je comprends vraiment pas. Là. Il y a de plus en plus de gens au Québec là, font pas vacciner leurs enfants. Là, là c'est pas juste « Bon, regarde, c'est le santé, Butch! » Non. Il y a bien des affaires qu'on peut dire, genre les témoins de Jéhovah qui refusent les transfusions sanguines. Là. ben on peut trouver ça stupide, oui, mais le mal, c'est eux.
Ouais.
C'est eux qui l'ont, ils meurent. Si vous refusez les vaccins, ça peut ramener des épidémies, là. Fait que ça a des conséquences pour l'ensemble de la population. C'est un choix que vous faites personnellement, mais qui a un impact sur la santé publique. Comment on combat ça? Récemment, pourquoi on fait l'entrevue là, ce matin, il vient d'avoir un sondage. C'est un sondage sur le web, ça vaut ce que ça vaut. Mais il était presque 20 % là, à dire que Jean-Louis Pasteur est un imposteur.
Oui.
Et les vaccins, on croit pas à ça. 20%. On rejoint l'anthropologue et chercheuse spécialisée en vaccination, la docteur Ève Dubé. Docteur Dubé, bon matin.
Bon matin.
Alors là, vous allez nous aider un peu. Là, comment on combat ça? Mais d'abord, vous, comment vous réagissez quand vous voyez ces sondages-là? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous révolte? Ou au contraire, vous dites, faut en tenir compte, faut combattre ça? Comment vous réagissez quand vous voyez qu'un Québécois, Québécois sur cinq ne semble pas croire au vaccin?
Ben, je suis pas tellement surprise parce que ça reflète ce qu'on voit dans d'autres études également.
OK.
Faut se rappeler par contre que ben ça c'est la population générale. Quand on regarde les parents au Québec, c'est la grande majorité qui font toujours vacciner leurs enfants. Donc malgré tout, malgré ces doutes là ou ces craintes là, la plupart des gens donnent tous les vaccins recommandés à leurs enfants. Donc il y a quand même une différence entre être un peu sceptique puis refuser les vaccins.
OK. D'où ça vient tout ça? Si on remonte en arrière un peu, dans mon temps moi là, tu sais quand j'étais jeune, quand j'étais enfant là, me souviens pas que mes parents que ça discutait les pro-vaccins, les anti-vaccins. Avez-vous une idée? Parce que pour combattre de quoi, il faut le comprendre. Ça vient d'où, ça?
Ça a toujours été présent, je pense, depuis les premiers programmes de vaccination contre la variole ou à la fin du siècle dernier. Il y avait déjà de l'opposition aux vaccins, mais il faut savoir que les vaccins étaient beaucoup moins sécuritaires que maintenant. On a vu une période, l'âge d'or de la vaccination, où est-ce que là, les maladies étaient très fréquentes. Les gens connaissaient des gens qui avaient eu la polio, la rougeole, des décès. Donc, quand les vaccins arrivaient, ils étaient contents, puis... prêts à faire vacciner leurs enfants. Dans les dernières années, à cause justement du succès des programmes de vaccination, bien, on voit moins les maladies. Donc, on commence à se dire peut-être que les vaccins sont risqués. Donc, on perçoit beaucoup moins le risque des maladies, mais beaucoup plus le risque des vaccins.
Oh, c'est bon ça. Donc c'est un peu contradictoire, mais parce qu'on a éloigné la menace des maladies, ben là, les gens semblent plus enclins à critiquer les vaccins parce qu'ils voient pas le danger. Est-ce que j'ai raison d'ajouter à ça le web? Parce que sur Internet, tantôt on parlait de Trump, on peut faire des comparaisons avec la politique un peu. Il peut s'inventer toutes sortes de théories sur le web aussi, là.
C'est sûr, puis leur diffusion est beaucoup plus rapide. Là, avant, voilà. Les rumeurs ou le bouche à oreille, c'était plus lent, mais là, maintenant, avec Internet, n'importe qui peut diffuser son message à un large public. Puis c'est sûr que quand on est un peu craintif, puis on tombe sur un article qui a l'air bien fait, parce que maintenant, les gens qui ont des messages anti-vaccins sont capables de mettre les moyens qu'il faut pour passer leur message. Donc, ça a l'air crédible. C'est un beau site web. Bien, c'est sûr que ça peut être inquiétant.
Parce que si on Google le matin, tel vaccin provoque l'autisme, dans Google, mais avoir des réponses. Là. Vous avez raison, j'ai déjà fait l'exercice. Puis des sites bien faits, puis des études, puis des docteurs. Là, ça existe, ça, là.
Ben oui, pourtant, le consensus scientifique est très, très clair. Là, il n'y a aucun lien entre la vaccination et l'autisme. Il y a des grandes études épidémiologiques qui le démontrent. Mais malgré tout, cette croyance-là, elle persiste puis elle se diffuse sur le web, justement.
Bon, juste avant de vous demander comment on combat ça, quelles peuvent être les conséquences de ça? Je disais tantôt qu'en matière de santé, c'est juste pour toi, tu peux refuser certains traitements. Mais admettons, là, mettons que ça continue, puis ça grimpe, puis plein de gens commencent à refuser les vaccins, ça peut être quoi les conséquences pour la santé publique?
Ben, on le voit quand les couvertures vaccinales, quand les gens se mettent à refuser les vaccins, les maladies reviennent. En Europe, il y a plusieurs épidémies de rougeole, il y a des décès dans certains pays parce que justement les gens sont pas vaccinés. Donc ça, c'est la conséquence de santé publique la plus immédiate quand on refuse de se faire vacciner. Ces maladies-là sont pas disparues à l'échelle planétaire. Donc avec un voyageur, on peut avoir de la diphtérie. On l'a vu récemment avec la rougeole. Maintenant, combattre ça, c'est difficile et ça passe beaucoup par la relation entre les personnes et leurs professionnels de la santé, je trouve. Quand on a des craintes, des doutes, on peut en discuter avec notre médecin de famille, une infirmière au CLSC, puis eux ont beaucoup d'informations puis beaucoup de réponses, puis peuvent permettre de distinguer le vrai du faux de toutes ces rumeurs-là qui circulent.
Quelqu'un qui nous écrit, ce qui nuit peut-être à la croyance en les vaccins, à leur efficacité, c'est par exemple les vaccins contre la grippe qui ont une efficacité qui est très variable selon les années. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui aimait ça comme argument? Ouais, mais le vaccin contre la grippe, ça fonctionne pas tout le temps.
Oui, effectivement, le vaccin contre la grippe, c'est un des pires vaccins qu'on a parce que les souches de la maladie varient et donc on doit faire une prédiction quelle souche va circuler pour fabriquer le vaccin, puis ça doit être fait un an à l'avance. Donc souvent, parfois, on se trompe. Par contre, le vaccin contre la rougeole, c'est le même, c'est la composition change pas et il est très, très, très efficace. Même chose pour tous les autres vaccins. Donc, le vaccin contre la grippe est très particulier et malheureusement, on vit un peu les conséquences négatives de son manque d'efficacité quand on se trompe dans le développement du vaccin.
Est-ce qu'on peut faire un portrait type de l'anti-vaccin? Est-ce qu'il y en a partout dans le monde? Est-ce que c'est dans toutes les communautés, toutes les sphères d'activité ou d'âge? Ou, c'est vous devez les connaître un peu, là, il y a des poches de résistance un peu plus précises concernant les anti-vaccins?
Mais en fait, moi, je distingue les anti-vaccins des gens qui militent contre les vaccins, donc qui sont motivés pour faire la promotion de ne pas se faire vacciner, des gens qui sont plus hésitants. Donc, les personnes très, très opposées à la vaccination, c'est moins de 1% de la population. C'est un très petit groupe. Il y en a partout, dans tous les pays du monde. Puis souvent, ils sont motivés parce qu'ils ont eu un enfant qui est décédé ou qui était très malade, puis ils attribuent ça faussement à la vaccination. Donc, ils portent une mission de convaincre d'autres personnes de ne pas se faire vacciner. Mais il y a un autre groupe plus grand de la population qu'on appelle les gens qui sont hésitants par rapport au vaccin, c'est environ le tiers de la population. Puis ça ne veut pas dire qu'ils vont refuser tous les vaccins, mais ils ont quand même des doutes et des craintes importants. Puis ça, c'est un phénomène qui préoccupe beaucoup la santé publique, parce que si ces gens-là se mettaient à refuser les vaccins, bien là, on aurait des enjeux importants en termes de maladies infectieuses.
Admettons que je suis dans une discussion, là. Je demande votre aide un peu, là. Admettons là, qu'on est un groupe d'amis ou un souper en fin de semaine, n'importe quand, en famille. Puis que là, il y a un anti-vaccin, mais là, un militant, là, parce que un militant, ça, c'est souvent des conditions spéciales, vous l'avez bien précisé, ou quelqu'un qui est hésitant. Auriez-vous un bon argument ou deux, là, mettons le parfait petit kit là, pour essayer de rassurer les gens puis de favoriser les vaccins? Là. Qu'est-ce que je pourrais y citer? Parce que là, lui, il me parle d'Internet. Là. Il a vu de quoi, ou elle a vu de quoi, sur Internet, sur les dangers de tel vaccin. Est-ce qu'il y a de quoi, ou une référence, ou un argument massu? Je sais qu'il n'y a pas de solution facile, mais que pour combattre ça un peu.
Bien, le consensus scientifique et médical est là. Je veux dire, c'est comme les changements climatiques. Les scientifiques s'entendent sur la sécurité puis l'efficacité des vaccins. Moi, mon approche, c'est vraiment d'écouter les gens puis d'essayer de comprendre d'où vient cette crainte-là puis pourquoi ils ont autant de questionnements ou de doutes par rapport aux vaccins. Puis souvent, en décortiquant un peu, mais là, on peut trouver une autre raison. C'est la peur la peur des effets secondaires, ouais. Ou le penser que c'est pas nécessaire. Donc, en faisant parler les gens, on peut mieux comprendre. Puis, il faut se rappeler que les maladies pour lesquelles on vaccine au Québec, ce sont des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Donc, il n'y a pas de traitement pour la rougeole. Quand on l'a, on espère que ça va bien se passer, mais si on peut pas guérir, tu sais, on peut pas prévenir ça autrement que par les vaccins.
Et en terminant, c'est déjà commencé au Québec. On a parlé là, que c'était partout dans le monde, mais je me semble qu'il y a eu quelques... C'est la rougeole, ouais. La rougeole dans le coin de Joliette, si je ne m'abuse. Vous devez en savoir plus que moi, mais on a déjà vu à Québec, s'il y a des gens qui pensent qu'on a peur pour rien. Déjà, dans certains cas, plein de gens ont refusé les vaccins, puis ça a eu un impact, hein?
Oui, c'était une communauté particulière, une communauté philosophique qui refusait les vaccins pour des raisons justement philosophiques ou religieuses. Puis il y a une personne infectée par la rougeole qui est arrivée dans la communauté, puis ça s'est rapidement, je pense qu'il y a eu autour de 150 cas.
OK, là, ça s'est propagé à plein de gens qui, eux autres, sont pro-vaccin, mais là, la rougeole, c'est...
C'est resté. C'est par contre, cette situation-là particulière, c'est resté dans leur communauté, comme ils étaient tous non vaccinés, mais ils n'ont pas... La santé publique ont réussi à les restreindre, ou si je peux dire, pour que l'éclosion se maintienne simplement dans cette communauté-là. Okay. Par contre, en 2011, on a eu une grosse éclosion de rougeole qui, là, a touché plein de gens.
OK. Dernière question. Je sais que c'est plus touché sur le plan éthique, mais pensez-vous qu'on devrait, dans certains cas, forcer les gens?
C'est très difficile. Puis moi, ce que je constate dans mes recherches, c'est que quand on parle aux gens, puis quand on essaie de comprendre c'est quoi leurs doutes, on est souvent capable de les convaincre d'accepter les vaccins, puis qu'ils vont prendre une décision informée, puis ils vont avoir confiance dans leur décision. C'est pour ça que je dis que les professionnels de la santé ont un rôle vraiment, vraiment important pour maintenir le succès de nos programmes de vaccination.
Merci beaucoup, Dr Dubé, de nous avoir parlé ce matin. Merci.
Merci, bonne journée.
Bonne journée. Dr. Ève Dubé est anthropologue et chercheuse spécialisée en vaccination. Ça se répand de plus en plus. Là, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui peuvent douter ou avoir des questions sur les vaccins. Il y a des gens qui veulent rien savoir, qui croient pas à ça du tout, puis qui pensent que c'est même dangereux. Puis ça peut donner un paquet de l'autisme. Ou un paquet de problèmes. Et là, c'est parce que... Mais elle a raison, hein. On se souvient pas de la polio. Y a-tu quelqu'un qui a... Tu sais, la polio, là. Les vaccins ont éradiqué tellement de maladies dans le monde que là, tu sais, il fut une époque où les gens, là, oui, le vaccin, c'est bon. Ils le voyaient, qu'il y avait moins de monde. Qu'il y avait la rougeole, la polio ou autre chose. Là, vu que ça s'est amélioré, ben les gens ont commencé à contester, puis dit on n'a pas besoin de ça, et ça peut donner. On l'a vu, regarde à Joliette, là, ils ont été 150. As-tu dit 100 ou 150 qui ont pogné la rougeole?
150.
D'après moi, le vaccin est un peu efficace. Si soudainement cette communauté-là, c'était une communauté religieuse, a refusé les vaccins, ben gars, paf, ils ont tous pogné la rougeole. Là, maman, je me semble que c'est assez parlant comme exemple. Je sais, sur Internet, vous avez vu d'autres choses.
Mais c'est ça l'affaire, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques quand on parle de consensus scientifique, là, mais il y en a un sur ça. Ça ne donne pas l'autisme. Ça n'apporte pas l'autisme, le vaccin. Il y a un consensus scientifique qui dit ça. Là, à un moment donné, oui, sur Internet, il y a un illustre site web qui va vous dire que ça donne l'autisme et le cancer et n'importe quoi. Là.
Et souvent, il y a un docteur dans ce site-là en plus. Tu sais, souvent, il y a quelques références
scientifiques.
Des fois, oui, puis d'autres fois, il y a des études qui sont inventées. Là. Ça arrive régulièrement que je tombe sur un site Internet, puis le docteur, aux États-Unis, éminent chercheur en immunologie, a dit ça. Il l'a jamais dit, ça n'existe pas, puis c'est juste quelqu'un qui a dit qu'un docteur l'a dit. Ça existe aussi. Puis là, présentement, à Vancouver, on parle de cas d'actualité, il y a des cas de rubéole. Rubéole, vous êtes vacciné quand vous avez genre un an. Vous n'êtes pas supposé avoir ça,
on n'entend plus parler de ça, la rubéole.
Puis là,
ça revient à Vancouver.
Oui, présentement, il y a des cas.
Parce que les gens refusent les vaccins.
Exactement.
Il doit
même
avoir
chose.
Une gang là-bas qui refuse.
C'est ça.
Le go.
C'est des anti-vaxxers, les anti-vaxxers en anglais, c'est comme ça qu'on les appelle, les anti-vaccins. Puis, un autre cas, par exemple, c'est la varicelle. Okay? On s'entend que la varicelle, les gens ne mouraient pas de ça. Là. Okay? Je l'ai eu, je ne sais pas si
ouais,
tu l'as aussi. Bon, maintenant, les
on
enfants.
On appelle la picote.
Ouais, les enfants sont vaccinés pour ça.
Oui.
En tout cas, maudite bonne nouvelle, c'est un épisode déplaisant dans ta vie. Là. Moi, ça n'a pas été. J'ai pas un souvenir très, très chaleureux de mon épisode de varicelle. Non, si on peut éliminer le maximum de maladies. Pourquoi on s'en priverait? La science nous permet de pas être malade puis de moins mourir de maladies. Tu sais, la mortalité infantile a chuté de façon spectaculaire.
Simon, on va déborder un peu, là. 25-226 en passant. S'il y en a, là, Mme Dubé dit, il faut les. J'aime son approche. Il faut parler avec ce monde-là. Il faut essayer de les convaincre. Il faut leur donner des arguments. C'est au médecin à faire ça. Moi, je sais que je réussirais pas. S'il y en a qui m'écoutent, là, ceux qui sont vraiment, vraiment anti-vaccins, moi, je suis pas capable. Peut-être que le docteur Dubé vous a convaincu, mais, tu sais, quand ton médecin, les infirmières, vous avez un rôle à jouer, les professionnels de la santé, là. Prenez pas ça à la légère. Aujourd'hui, tu es dans le temps. Dans le temps, le médecin, quand il disait de quoi, hein, tu remettais pas trop ça en question.
Non, fait,
c'est seulement que ça marche. Je me souviens, il y avait une autorité. Mais aujourd'hui, les jeunes, ben, pas juste les jeunes, les gens contestent l'autorité. Puis, il y a le web, le net qui fait contrepoids à tout ça. Alors, c'est pas facile, mais vous avez un rôle à jouer. D'après moi, vous pouvez pas juste dire, hey, crois-moi, les vaccins, c'est bon. Faut que vous preniez 5 minutes, là. Expliquez-le comme faut, arrivez, parlez du consensus, parlez de tout ça. Vous avez un rôle à jouer. Mais, réagissez 25-226, j'étais faire un tour hier. J'ai cherché ton site de complot. Parce qu'on s'est parlé hier d'un site que Jean-Simon...
Cherche QAnon. QAnon, non?
Ouais. J'ai pas trouvé, parce que je me souviens...
C'est pas un
de...
site en tant que tel.
Non, mais c'est un phénomène.
Oui, c'est un phénomène,
Mais j'ai... Donc, j'ai comme tapé conspiration, toutes sortes de patentes là, sur Google pour trouver ton affaire, là, puis j'ai pas eu le temps, j'aurais dû te texter, là. Mais bref, j'avais-tu t'en parler? Je t'ai fait un tour sur InfoWars.
Oh boy.
Connaissez-vous ça?
Non. De nom, là?
Juste en parler... Je me demande si je devrais en parler.
InfoWars.
Mais regarde, ça existe. InfoWars, c'est l'animateur Wars. Alex Jones.
Mm-hmm. Hey, je suis revenu
loin. Vous savez que j'aime l'histoire. Là. Mais l'histoire se répète tellement. Tous les vieux clichés de complot, là, tout ce qu'on sortait sur les Juifs à l'époque, là, à une époque qu'on pensait terminée, révolue, mais il y a du stock là-dedans, là. Mais c'est hallucinant. Et... Le site est super bien fait. Attention, je parle de la forme, pas du fond. Vous me suivez? Mm-hmm. Dans le sens qu'il y a des moyens. Il est riche. Il fait 20 millions par année. Alex Jones, il fait 20 millions de dollars par année. Il vend une sorte de bebelle, des barres protéines, des patentes. Là. Fait que son site, là, il n'y a rien à envier en termes de présentation à la presse.
Non, il est très basic.
Journal
site,
de Québec. Vous allez voir ça.
Il est
ça.
Même moins bien fait, moi, je trouve.
Oui, mais non, mais tu sais, il y a du cash, là. Mais les théories là-dedans, madame, messieurs, moi, je pensais pas que...
Mesdames,
t'as peu, hein?
Ouais,
non, mais t'es même pas dans le pire, là.
J'ai été voir, t'as peu. Et là, j'ai été voir son live d'hier. À moins que les chiffres soient truqués, ce que je pense. Mais j'ai cliqué, donc oui, j'ai regardé. Là. Nous étions combien à regarder ça? Regarde, je vais vous donner un petit exemple de qui est Alex Jones. Là. Vous allez comprendre le personnage. Vous vous souvenez de la tuerie de Sandy Hook? C'était dans une école.
Oui.
C'est des enfants qui sont décédés. D'âge, je me souviens pas exactement, mais très jeune. Là. C'est des enfants qui ont été tirés par, je me souviens plus de l'auteur, mais c'est une tuerie de masse aux États-Unis, Sandy Hook, où des jeunes sont décédés. Lui, Alex Jones, il dit que ce sont des comédiens, des comédiennes, les parents, puis c'est arrangé pour... C'est le Parti démocrate qui est derrière ça, pour interdire la vente des armes à feu, et que c'est arrangé. Sandy Hook, c'est un montage, c'est fake.
C'est Adam Lanza qui s'appelle, le tueur.
Bon, alors, c'est une tuerie. Sandy Hook, c'est une des... Ben, oui, il y en a plusieurs aux États-Unis, mais c'est une des plus connues parce que les cibles étaient des enfants.
C'est ça.
Il y a eu combien de morts, vous allez me le dire?
32.
Il y a eu 32 morts.
Il y avait 20 ans, le tireur.
Le tireur avait 20 ans, puis les victimes,
c'était des enfants.
Vraiment pas âgés.
En fait, oui, ben, tu avais 20 enfants sur les morts au complet. Tu as aussi eu des enseignants.
Ah,
là,
ben
qui
oui.
Sont,
OK, alors c'est une tuerie dans une
mais
école.
Mais ça visait les enfants.
C'est une école primaire.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Là, je voulais être sûr, c'est vraiment primaire.
Mais c'est 26, c'est pas 32.
OK.
28. C'est 28, j'ai 28 morts et 20 enfants.
Pourquoi c'est pourquoi c'est difficile? C'est parce que ça varie toujours. Ça. De nouvelle à l'autre, il y a des blessés, il y a des... Regarde, on ne veut pas manquer de respect du tout. Là. C'est 28.
Exact.
Il y a eu
dont 20 enfants
qui sont décédés dans une école primaire. Alex Jones dit que ce n'est pas vrai. Ce que vous avez vu à TV, là, les parents implorés, là, c'est des comédiens. Remarque, il a dû s'excuser parce qu'il a été poursuivi, mais il continue à dire que non. Finalement, il a dit que ce n'était pas des comédiens, mais c'est des activistes du Parti démocrate. Mais bon, mais au départ, ils soutenaient que c'était... Imagine-toi les parents, là, qui ont perdu leur enfant. Alex Jones dit, « Hey, votre douleur, votre tristesse, non, c'est fake. C'est arrangé. C'est les démocrates. » Donc, hier, nous étions 136 millions.
Et c'est pas truqué, Sylvain.
C'est pas truqué.
136 views. Vous savez, c'est compté, là, sur Internet.
J'ai l'impression que c'est...
136 millions de personnes qui regardait Alex Jones d'InfoWars, le type qui dit que la tuerie dans une école primaire, c'est faux. Il a aussi soutenu à plusieurs reprises. Là encore, il a été poursuivi, c'est un peu rétracté, mais le fameux Pizzagate, il a dit à maintes reprises que c'était réel. Savez-vous c'est quoi le Pizzagate?
Mm-hmm. Yeah.
Alex Jones et d'autres soutiennent que Hillary Clinton faisait du trafic d'enfants pour pédophiles dans le sous-sol d'une pizzeria à New York. Je sais, on en rirait si c'était drôle, mais ça ne l'est pas.
Il y a des tas d'Américains qui croient ça. Il y en a énormément. Présentement,
le Pizzagate,
présentement, il y a des commandos en Arizona qui croient ça, et plus le QAnon, là, éventuellement, on pourra en parler plus un peu, là, mais en lien avec ce trafic d'enfants-là, démocrates supposés, là, il y a des commandos qui se promènent avec des armes dans le désert d'Arizona pour trouver des camps d'enfants exploités, là, des camps de pédophiles. Ils pensent qu'il y en a dans le désert en Arizona.
La pizzeria visée à New York, elle existe pour vrai. Ouais. C'est la pizzeria Ping Pong. Ça s'appelle comme ça, je crois. Bien, il y a un tireur qui est allé là puis qui a tiré. Il a ouvert le feu.
Ouais.
Parce que lui, il est sûr que dans le sous-sol, Hillary Clinton puis les démocrates font du trafic d'enfants, des esclaves, avec des rites sataniques.
Ça visait son directeur de campagne, plus précisément, qui
John
travaillait.
John Podesta, puis il y a d'autres. Mais Hillary était reliée à ça aussi. Là. Le
mais
but, c'était de relier Hillary et le Pizzagate. 138 millions de personnes regardaient Alex Jones hier, au moment où j'ai visionné son
Il y en a au Québec.
Il
y en a au Québec qui croient ça.
Mais il doit y en avoir un paquet là-dedans qui ne croit pas à ça. C'est pas 138 qui y croient.
La majorité y croit. Moi, j'étais random. J'ai compté là-dedans parce que je cherchais des affaires sur les théories conspirationnistes. Donc, j'étais un des views. Mais la majorité des gens, c'est pas du monde comme moi qui sont tombés là pour dénoncer ou voir jusqu'où ça va aller. Donc, il y a la tuerie de Sandy Hook, c'est faux. Le Pizzagate, Hillary Clinton impliquée dans des rites sataniques et sexuels contre des enfants. J'en ai vu d'autres aussi. À un moment donné, il y avait...
Ah non, regarde, ça donne mal à la tête.
Il y en a. Ah, George Soros aussi, évidemment. Là,
ben oui, qui paye
le milliardaire
des
juif européen
qui
est à la tête de tout ce qui se passe. Tous les migrants qui essayent d'aller aux États-Unis sont tous payés par George Soros. Mais le gars, ce qui me fascine, c'est le nombre de personnes qui le suivent. C'est l'ampleur. C'est pas... Tu sais, avant, là, c'était le fou du village. Mais avec Internet, là, le fou du village, là, les gens le prennent au sérieux. Puis lui, en passant, il n'est pas intellectuellement fou parce qu'il fait 20 millions par année. Moi, je le soupçonne que lui, il fait du cash. Là.
Ouais.
Il croit même pas ce qu'il dit.
Ça se peut.
Sauf que... Alors, on est rendu là. On est rendu qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de limite. Puis là, je ne vais pas dans le plus creux en matière de conspiration parce que ce que tu m'as parlé hier, c'est encore pire.
On plongera plus loin à un moment donné, si ça te tente.
Parce qu'Alex Jones, c'est triste à dire, mais c'est presque la surface. Il y a encore pire que ça.
Et tu vois, une autre de ces théories, une des plus populaires et les plus ridicules, c'est que le gouvernement américain utilise une sorte d'événement, d'éléments chimiques dans l'eau pour tourner les gens homosexuels. Une bombe, c'est ça.
Ouais.
Alors, la plupart des homosexuels aux États-Unis sont causés par cette bombe-là. Ils ont bu de l'eau et qui contenait cet élément chimique-là qui fait qu'ils sont gays.
Alors, il y a toutes sortes de théories du complot stupides. Et il y a aussi, tu sais, quand je dis que ces gens-là, ils exploitent, là, il y a aussi ce que j'appelle des mensonges qui sont en fait des... À la base, il y a une vérité, mais très mal présentée. Hier, ça manchette. Peut-être que le fait est vrai. La majorité des crimes de pickpocket en Belgique, c'est des immigrants et des réfugiés qui les commettent. Bon, si t'es un réfugié qui vient d'arriver en Belgique, là, puis tu vis dans une tente ou comme les villages en France, ça se peut qu'il y ait des gens là-dedans qui traînent dans les gares puis qui volent. Plus que la personne qui a sa job, qui a sa maison. C'est peut-être, bien, j'ai pas le profil, mais là, tu vois comment il se sert de cette info-là. Elle est peut-être même pas vraie. Vu qu'elle vient de son site, je la crois pas. Mais mettons qu'il y a plus de réfugiés impliqués dans les vols de pickpockets dans les gares en Belgique, ça se peut,
ça
s'explique, ça se comprend, ça ne fait pas des réfugiés tout du mauvais monde. Vous comprenez, mais tu comprends. Son site, là, il y a ses théories du complot débiles, puis il y a aussi plein d'infos où il part de quoi qui est peut-être un fait.
Qui est peut-être
mais
crédible,
là,
en fait.
Ouais. Puis le monde va dire, non, il a raison, gars, cette étude-là est vraie. Ouais, mais t'as un peu... T'en dis quoi? Qu'est-ce que tu fais avec
ça? Il y a personne qui croit que l'eau que tu bois va te rendre homosexuel. Mais le fait que la plupart des crimes soient commis par des réfugiés, c'est un élément... La base, elle est crédible. Ça se peut. Ça fait que c'est sûr que si
là,
tu
quand
vas
tu
sur
dis
son
personne
site,
va
il y a des gens qui croient ça.
Non, oui, Elisabeth.
Ben, je veux dire, c'est débile un peu. Je veux dire, il n'y a personne censé qui pense que l'homosexualité, ça vient d'un verre d'eau que tu vas boire.
Les fans d'Alex Jones, oui.
Ben oui, mais
que ce soit
débile,
Sandy Hook. Non, mais il a réussi à leur faire croire au Pizzagate, à Sandy Hook, à la bombe gay. Oui, oui, oui.
C'est pas tout des
réussis.
Mais c'est ce que je veux dire. Ouais, mais t'as un certain type de personnes qui croiront pas à ce que l'homosexualité est causée par un verre d'eau, mais ils peuvent croire ces gens-là à une théorie qui dirait que la plupart des crimes sont commis par des réfugiés, parce que c'est pas complètement dénué de crédibilité comme énoncé.
Le pire là, c'est qu'ils inventent rien. Mais si l'histoire nous enseigne une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on ne retient rien de l'histoire. Je sais pas si vous me suivez. S'il y a une chose qu'il faut retenir de l'histoire, c'est qu'on retient pas l'histoire. Les histoires de sacrifices d'enfants puis de rites sataniques et d'exploitation sexuelle reliées au Pizzagate, là, ça, toutes ces théories-là ont sorti au 19e siècle sur les Juifs. On accusait les Juifs dans les communautés de kidnapper les enfants des chrétiens et de boire leur sang, de les accuser sexuellement. Il y a rien de nouveau là-dedans. C'est une façon de diaboliser son adversaire avec la chose la plus abjecte qui soit, abuser des enfants. Puis, bon, vous savez, quand on s'intéresse à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, au nazisme, pour essayer de comprendre ça, des fois, il faut remonter plus loin dans le temps, parce que l'antisémitisme, ça existait bien avant Hitler, c'est pas lui qui a inventé ça. Et dans ces ouvrages-là, allez voir, même au musée sur l'Holocauste à Montréal, il y en a, là. Tu vois qu'on associe les Juifs à des crimes sexuels avec des enfants. Et là, qu'est-ce que fait des Alex Jones de ce monde? On reprend ça.
Ben,
on reprend encore ces méthodes-là qu'on pensait disparues à jamais. On revient dans les années 1800, là. Et il y a 138 millions de gens qui semblaient visionner. En passant, il se fâche, mais il vient en colère.
Oh, oui.
L'as-tu déjà regardé?
Oui, il fait l'incroyable.
C'était la première fois.
C'est un show, ce gars-là.
Il crie, il hurle.
C'est ça.
Les gens aiment ça parce que ça canalise deux affaires. Premièrement, la colère des gens, je pense, envers les élites et les médias. Ça, c'est avéré. Ça explique un paquet de choses dans le monde présentement. Ça canalise ça. Puis deuxièmement, c'est sexy comme théorie, ça, de se dire, et si tout ce qu'on nous montrait était complètement faux et qu'en fait, c'était quelque chose de beaucoup plus spectaculaire? C'est sexy de croire ça. Que l'attentat du 11 septembre n'a pas été fomenté, puis que dans le fond, c'est un con. C'est plus sexy, tu sais, de croire que, par exemple, justement, il existe des produits chimiques qui rendent des grenouilles homosexuelles. Tu sais, c'est des affaires qui sont tellement incroyables, puis tellement que les gens, ils font comme, ah, ben oui, le monde doit nous mentir.
Mais c'est dangereux.
C'est ça la vérité, mais c'est hyper dangereux.
C'est dangereux parce que sur les 138 millions qui écoutent Alex Jones, un pourcentage là-dedans, un très gros pourcentage qui croit tout ce qu'il dit, puis un pourcentage là-dedans qui sont des irrécupérables. Tu peux jamais aller les rechercher, ce monde-là. Ils croient à n'importe quelle niaiserie. Tu peux leur faire avaler n'importe quoi, et ils sont quand même assez nombreux. assez nombreux pour faire du dommage dans la croyance populaire. Là.
Mais tu sais, il s'est quand même rétracté une couple de fois parce que la faiblesse de ces gens-là, quand ils poursuivent, ils n'ont pas le choix.
Ouais.
Sur Sandy Hook, il s'est rétracté en partie, sur le Pizzagate aussi. Mais ses fans, là, voyez bien.
Ses fans, ils ne se rétractent pas,
ça. Mais voyez bien qu'ils se rétractent, là. Ils se rétractent toujours à demi-mot, ça n'a pas l'air sincère pantoute, là. Je ne l'excuse pas, là. Mais à chaque fois qu'il fait face à la justice, parce qu'oubliez pas, là, lui, il veut faire de l'argent. 20 millions par année. Il y en a-tu des auditeurs, des listeners, puis il en vend-tu des bebelles pour faire 20 millions par année? Ça a été dit en cours, à un moment donné, dans une de ses poursuites. J'ai fouillé un peu hier, j'ai été voir certains sites un peu, mais... Mais regarde, quand on parle des anti-vaccins, là, je veux pas tout mettre le monde dans le même paquet. Il y a des gens qui ont des motivations. Les motivations peuvent être malsaines. Tu peux avoir aussi des motivations de paranoïa un peu plus réelles. Mais je fais quand même un parallèle que... C'est de plus en plus dur. C'est l'ère de la post-vérité. Il appelle ça même. Là. C'est un grand terme savant. Là. J'aime pas bien ça, mais on l'est rendu là-dedans. Là. Il n'y a plus de vérité qu'un grand V. Chacun a sa propre vérité selon ton site Internet que tu consultes, selon tes affaires. Les scientifiques, les affaires, l'histoire, ça compte
plus. Il y a plein de plateformes.
C'est, regarde.
Il y a plein de plateformes.
Pourquoi, Bush, ce que tu dis, là, toi, tu dis que c'est vrai, Sandy Hook, tu l'as-tu vu? Ben non, mais je me fie à toutes les médias. Ah, oh, regarde, tu l'as pas vu, hein? Tu les as pas vus, les morts. Ben c'est Alex Jones qui a raison. Il y a un site Internet, puis il dit, lui. Ouais, non, j'ai pas vu les morts, mais je me fie à tous les témoins, aux versions officielles, aux médias. Tout acheté, tout contrôlé par les Juifs. Hein? Non, nomme-moi tes médias, c'est tous des Juifs là-dedans, des démocrates, puis des... C'est dur, des fois, ce... Je sais, parce que... De temps en temps, je réponds, là, à certains auditeurs, là, tu sais, sur le 11 septembre. Mais je réussis jamais. Il arrive toujours avec l'édifice numéro 7. Mmh. Parle-moi pas de ça! Des fois, j'ai le goût de leur dire, parle-moi pas de ça, parle-moi des deux autres tours. Non, mais si l'édifice 7, ça veut dire que tout le reste, c'est des mensonges.
Non, mais c'est fort, la croyance.
C'est pas de même que ça marche. Quand même qu'il y aurait une faille, l'histoire du 11 septembre, il y a probablement une coupe d'affaires là-dedans. Comme dans n'importe quoi. Il y a tout le temps des affaires inexactes. Ça fait pas parce que tu pars d'une petite faille, ah, c'est automatique, c'est le Mossad, les services secrets israéliens qui ont fait le 11 septembre. Parce que la destruction de tel édifice t'apparaît louche. En passant, es-tu un expert en démolition? Non. Non, mais sur Internet, ouais, il y en a quoi? Il y en a un? Ouais, il y en a un. Il y en a un qui est allé dire que la façon dont la bâtisse est tombée, c'était louche. M'en recevoir encore. J'aurais pas dû ouvrir la porte. M'en recevoir entre 20 et 30 textos. Non, 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 le 11 septembre. C'est quoi? C'est l'édifice 7, là? C'est ça?
Ouais, je pense que
c'est ça. L'édifice 7. Il y a un architecte qui a dit que la façon dont il est tombé, ça se peut pas.
La physique.
Non, mais c'est quoi? Je vais faire un parallèle avec ce qu'on a vécu récemment ici, là, l'attentat à la mosquée de Québec, lorsqu'Alexandre Bissonnette a obtenu sa sentence la semaine dernière. Si tu savais, Sylvain, si tu savais le nombre de fois sur les réseaux sociaux où j'ai lu la théorie du deuxième tueur.
Ah, des centaines.
Oui, mais deuxième, des centaines. C'est hallucinant. Écoute, ça fait 2 ans maintenant. Là,
sur le site du Journal de Québec.
Oui.
Non, je le dis parce que c'était des lecteurs, mais vous l'avez laissé là longtemps, là. Le Journal de Québec, là. Plein de commentaires. Encore, je les ai lus. Il y avait un deuxième tueur, c'est les musulmans.
Ils protègent.
Il y avait un tueur musulman, puis il y avait... Tu sais, des fois, quand vous émettez ces théories-là du complot, là, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Ça veut dire que, mettons, je vous crois, il y avait un deuxième tueur musulman à la mosquée. Ça veut dire qu'il y a des centaines de policiers qui mentent, qui sont dans le complot aussi. Ben non, oui! Ben oui, parce qu'ils étaient sur place. Puis ils disent tout qu'il n'y en avait pas de deuxième tueur. Tous les policiers et policières... Tous les ambulanciers, tous les journalistes. Tu sais, votre paranoïa, là, c'est parce que c'est ça. Parce que ça veut dire que tout le monde ment. Il y avait du monde ce soir-là à la mosquée. Là. Il y avait des centaines de policiers, de paramédics. Il y avait du monde. Il y a personne qui a vu le deuxième. C'est une confusion.
En fait, on sait c'est qui. C'est une personne.
C'est une personne qui se sauvait. Les policiers, à un moment donné, l'ont pris pour un suspect parce qu'il avait peur puis il se sauvait. Ça s'est réglé.
Et ça a duré une journée, 24 heures, même pas, là, tu sais.
Mais ça se répand encore.
C'est hallucinant. J'ai lu ça, là, par dizaines, ce commentaire-là.
Ils sont où, les gens qui étaient dans les avions à Boston qui voulaient prendre le 11 septembre 2001 qu'on n'a jamais revu? Tu sais, des fois, quand tu leur dis ça, tu vois, il y en a qui répondent sur une île déserte, Sylvain. Ils ont mis là sur une île déserte.
Oui, ils vont dire ça.
OK, c'est bon, l'arrête. Là, t'arrêtes. Tu fais comme, OK, c'est bon.
Il y a plein d'îles qui sont pleines, là, qui débordent parce qu'il y a plein de conspirations.
Ben, ça doit être la même île où est Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Elvis, puis René Lévesque. Ça doit être là, mais je sais pas, là, qui est là.
Il y a un petit commentaire. Quelqu'un nous écrit au 25226 que la côte de l'Aqueduc, elle est très difficile à monter actuellement, là, qui sont peut-être en train de l'échapper côté déneigement. Apparemment, qu'il y a des autos qui sont pas capables de la monter présentement.
Alors, ça tombe pas mal, là.
Oui.
Ça tombe.
Faites attention.
On est sur un bon fond de neige partout.
Partout, même les autoroutes.
Alors, soyez prudents. 8h34, courte pause.